Rendez-vous à 15h.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Il est 23h.
Parlons vrai.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Bien souvent, lorsque notre partenaire exprime un sentiment de jalousie, on se sent aimé, voire même flatté, comme si on ne pouvait pas aimer sans être un peu jaloux. Alors certes, c'est souvent vrai, mais il existe quand même des gens absolument pas jaloux du tout, voire même excités à l'idée que leur partenaire puisse avoir une relation sexuelle ailleurs. Néanmoins, la jalousie, si elle peut avoir un effet aphrodisiaque, elle a le plus souvent un effet négatif dans une relation. Et c'est pourquoi nous allons voir avec Fabrice Bac, mon invité aujourd'hui, comment on peut rassurer un partenaire qui est très jaloux, et nous verrons aussi pourquoi on est plus particulièrement jaloux que d'autres, et comment on peut utiliser la jalousie éventuellement pour relancer la libido dans son couple. De même, on va tout de suite évoquer la différence entre l'envie et la jalousie, deux sœurs pas si jumelles que ça. Donc si vous êtes jaloux ou pas, si vous avez un partenaire jaloux ou pas, eh bien vous pouvez réagir, et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Fabrice Bac.
Bonjour Brigitte.
C'est vrai qu'on les confond beaucoup, l'envie et la jalousie, alors que c'est pas tout à fait la même chose.
Non, ce sont deux choses bien distinctes. Comment on confond estime de soi, confiance en soi. L'envie, c'est véritablement quelque chose qui peut nous animer, qui peut être un moteur dans notre vie. L'envie peut s'associer au désir. Et là, effectivement, il y a une pulsion qui nous pousse à matérialiser quelque chose qui nous est manquant.
Mais on peut aussi être envieux, et là, c'est le côté négatif de l'envie. Hein.
Complètement. Et là, quand on commence à glisser du côté négatif de l'envie, on peut rapidement atteindre la jalousie, qui serait le paroxysme de l'envie négative.
Alors, je vais continuer, si vous me permettez. Par exemple, on peut plus facilement avoir envie et donc désirer quelqu'un parce qu'il est, par exemple, célèbre, ou avec une femme qui est célèbre. Enfin, je veux dire, il y a une sorte comme ça d'attirance narcissique.
Complètement.
Si j'ai envie de lui ou d'elle parce que ça me valoriserait.
Complètement.
C'est tout à fait.
C'est se rapprocher d'un idéal, en fait. Et avec véritablement cette notion de, paradoxalement, fantasmatiquement, je vais pouvoir l'atteindre. Ce qui apparaît dans la jalousie, c'est plus un idéal. C'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir atteindre. Et donc là, d'un côté, on a un facteur narcissique positif. De l'autre côté, on a un facteur narcissique négatif.
Alors évidemment, c'est pas du tout la même chose. En général, on est jaloux de son partenaire parce qu'on a peur qu'il aille voir ailleurs. Mais on peut aussi être dans l'envie de ce qu'il est. Et alors à ce moment-là, ça peut nous galvaniser, comme ça peut nous donner envie de le détruire parce qu'on est dans une rivalité. Et on voit bien que l'envie et la jalousie sont des ressentis. Très complexe, mais très fréquent chez l'humain.
Ah, complètement. Et d'autant plus, on le verra au cours de cette émission, il y a plusieurs formes de jalousie. Alors, je dirais, c'est même pas des formes, il y a quatre niveaux en fait successifs de jalousie. À savoir que la première expérience de jalousie qu'on a pu reconnaître tous connaître un jour, ou la grande majorité, simplement la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur. À un moment donné, la mère va se détourner de nous pour aller vers le nouveau-né, ce qui est tout à fait normal. Et il y a un sentiment qui émerge chez l'enfant d'une rivalité, en fait, qui apparaît.
Oui, absolument. Et ça va dépendre de l'âge à laquelle, auquel ça arrive.
Tout à fait.
Et il semblerait que le pire, c'est quand ça arrive vers 3-4 ans, en plein...
Plus l'enfance, ça va arriver tardivement, en fait, plus l'enfance, l'aîné sera autonome, plus il va pouvoir absorber l'arrivée de ce petit frère ou cette petite sœur, de par le fait qu'à un moment donné, il va être responsabilisé vis-à-vis de lui. Plus les petits, moins le responsabilise, ce qui est plutôt normal, et du coup il va se retrouver en compétition avec lui.
Et quand ça arrive très jeune, parfois on n'a pas encore trop fusionné, si je puis dire, de manière inconsciente. Mais c'est vrai que c'est des âges, ça dépend beaucoup des âges, et puis ça dépend aussi de comment la maman
comment elle va se positionner, etc.
Mais c'est vrai que c'est important de bien comprendre qu'un sentiment de jalousie très très pathologique peut être dû aussi à ça.
Complètement. Et à savoir que la jalousie en soi n'est pas forcément quelque chose de négatif, parce qu'on en voit très fréquemment tous les excès. On en parlera, je pense, au niveau 4, où ça peut être très problématique. Mais autrement, la jalousie participe de la construction, par exemple, d'un couple ou de la relation à l'autre. C'est parce que l'autre, à un moment donné, va regarder quelqu'un. Je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Elle a l'air bien jolie, celle-ci. Et tout de suite, ça nous renvoie à nous et comment on va chercher, justement, à réattirer son attention.
Se réapproprier.
Exactement. Et vient là, mon grand, c'est ici que ça se passe.
Mais est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment ne pas être jaloux du tout
parce que... Alors, c'est très intéressant comme question. Est-ce qu'on peut ne pas être jaloux du tout? Potentiellement, je ne pense pas. Si vraiment il n'y a aucune forme de jalousie où que ce soit, il y a deux possibilités. Ou la personne est dans un déni, c'est-à-dire qu'elle l'est, mais elle ne veut pas l'admettre.
Elle ne s'en rend pas compte, oui.
Voilà. Ou alors, il y a un total non-investissement de l'autre. À ce moment-là, on n'est pas jaloux, parce que lui ou quelqu'un d'autre, finalement, ce qu'il nous apporte, n'importe qui d'autre pourrait nous l'apporter.
Mais souvent, ce que j'ai remarqué dans des personnes qui me disent qu'elles ne sont absolument pas jalouses, c'est souvent parce que ça se transforme en excitation. Et donc, à ce moment-là, évidemment, on n'est pas jaloux.
Là, il peut y avoir un rejet, effectivement.
C'est une sorte de sublimation de la jalousie, au fond.
Complètement. Et le fait, à un moment donné, comme on disait un instant, ce sentiment de jalousie est naturellement présent et peut être un élément excitant, pas forcément négatif. On ne va pas commencer à fantasmer ce que l'autre pourrait faire avec telle ou telle personne. On va plutôt le retourner sur soi pour dire, attends, potentiellement, peut-être que tu voudrais ça, ben voilà comment moi je vais te l'apporter. Et c'est une jalousie plutôt positive à ce moment-là, parce qu'elle vient enrichir la personne. Maintenant, ça peut se dégrader, on peut être dans d'autres niveaux, et là, ça va devenir problématique jusqu'à atteindre des niveaux de jalousie maladive. Et là, on va être confronté, enfin, je l'évoquerai certainement au cours de cette émission, à des failles narcissiques, des failles d'identité très importantes qui peuvent toucher les deux partenaires.
Oui, d'ailleurs, quand on a affaire à un partenaire qui est particulièrement dans une jalousie que j'appelle pathologique, généralement, il faut appeler au secours parce que soi-même, on ne pourra pas le guérir.
Non. Là, il faut en avoir conscience. Ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se retrouve partie intégrante du problème. Et comme je dis souvent, on ne peut pas passer dans la rue et se regarder passer dans la rue. Enfin, d'être schizophrène, ça serait quand même problématique. Donc, il va falloir effectivement faire appel à un tiers qui, lui, va venir, à un moment donné, mettre du sens sur ce sentiment de jalousie. Pourquoi est-ce que l'un le ressent? Quelle est la peur qu'il ressent essentiellement? La peur de la perte de quoi? Qu'est-ce qui est manquant? Et qui va pouvoir rééquilibrer la relation. Et dire à un moment donné, oui, mais je ne serai plus jamais jaloux, ça n'a pas de sens. Par contre, faire descendre les niveaux pour venir au niveau 1 de jalousie, qui est tout à fait vivable et participe de la relation du couple, ça, c'est un réel travail qui doit être fait avec un tiers.
Et ce qui est aussi intéressant, mais on le verra évidemment avec les témoignages qu'on va avoir, mais ce que j'ai déjà remarqué quand j'aborde ce sujet, c'est qu'il y a des personnes qui a priori ne sont pas spécialement jalouses, et puis dans la vie il se passe un élément, pas forcément d'ailleurs une infidélité, mais il se passe un élément qui déclenche cette jalousie. Ouais. Et c'est là où on se dit que c'est quand même assez paradoxal.
Oui, et en même temps c'est parce qu'il y a une sorte de déni, parce que la jalousie c'est connoté comme étant un sentiment négatif, une émotion négative. Faut pas, ça n'est pas bien. Non, c'est pas que ça n'est pas bien quand ça atteint certains niveaux. Si on prend les différents niveaux, au niveau 1, c'est la peur de perdre l'amour de l'autre. Donc c'est une marque d'attachement par rapport à cela. C'est sain. Et du coup, à un moment donné, c'est ce désir-là qui va permettre de mettre... Le couple est fusionnel, ça va créer un petit écart. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire des efforts pour lui plaire. On va se faire des efforts réciproquement pour se plaire. Donc, que cette forme de jalousie met en avant, c'est les doutes, les peurs, de ne plus que l'autre, on ne le suit plus suffisamment.
Et c'est aussi le besoin d'être le préféré.
Voilà.
Simplement.
C'est
humain.
Tout à fait. Et après, on peut commencer à monter d'un cran. Et là, on va rentrer dans la possessivité. Là, déjà, dans la possessivité, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur. Donc, on va chercher l'exclusivité, le contrôle, parce qu'il va y avoir une peur de la perte. Alors là, on commence à rentrer dans des fantasmes. Et la méfiance, de la suspicion. Par exemple, on ne supporte pas que quelqu'un parle à l'un ou à l'autre, immédiatement. Exemple que j'ai eu un jour, un de mes patients marche dans la rue avec sa conjointe, il marche simplement. Et sa conjointe lui dit, elle t'a plu celle-là, vu comme tu l'as regardée? Et qui? J'ai regardé qui? Mais il a même pas vu. Mais elle, elle a interprété que par cette femme qui est passée simplement devant lui, allait attirer son regard. Et là, ça commence à poser souci. Alors souvent, cette possessivité, elle est inconsciente. Donc, elle n'est pas forcément avouée. La jalousie qui s'active va s'activer d'une façon particulière, notamment dans des situations de décrochage. Parce que quand l'autre se ferme, il ne dit plus rien. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu le sais bien. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qu'on va retrouver à ce moment-là, dans cette possessivité, c'est que l'un vient combler les failles de l'autre sur le plan narcissique.
Bien
sûr. Donc on a peur de perdre. Puis on va passer au niveau 3. Là, le niveau 3, c'est l'emprise. Là, ça commence à devenir plus embêtant. C'est-à-dire que l'autre a besoin d'être au centre de la vie, obligatoirement. Alors là, on va commencer à rentrer dans des soupçons. On va traquer les moindres faits et gestes, le moindre retard, le moindre coup de fil passé. On va contrôler les téléphones, on va rechercher l'exclusivité, mais surtout derrière l'exclusivité, c'est le contrôle de l'autre. Oui, tu es à moi. Et là, on commence à entrer dans la jalousie maladive. Et il y a une définition très précise là-dessus. C'est important de l'avoir en tête, c'est quand la personne exerce une surveillance accrue de l'autre, qu'elle manifeste un désir de possession et qu'elle est persuadée d'être trompée ou qu'elle va être trompée par l'autre de toute manière. Donc c'est un fantasme complètement délirant. Puis on arrive au niveau 4. Là, c'est l'addiction, et on rentre dans le contexte du pervers narcissique. Ça a eu l'occasion de faire une très belle émission sur ce sujet, et là, c'est très problématique, parce que le but, c'est de garder l'autre sous emprise pour exercer uniquement sa domination et son pouvoir. Là, la jalousie devient maladive. Vraiment maladive, mais à un seuil très élevé. Et ce qu'on retrouve dans cette graduation progressive en 4 étapes, 1, plus on avance, manque de confiance en soi, bien sûr, manque de confiance dans l'autre. Deuxième élément, dépendance affective, avec une peur de l'abandon, une peur fondamentale de l'abandon, des crises de plus en plus importantes pour aboutir à des éléments qui peuvent devenir, au niveau 4, complètement paranoïaques.
Eh bien, c'est ce qu'on va examiner au cas par cas avec vous, Fabrice Bach, et je vous invite à nous rejoindre, bien sûr, au 0826-300-300. À tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio. Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio Millau.
101.4.
Sud Radio.
Côté libido, vous êtes plutôt romantique, libéré, excentrique, joueur. Rudesplaisirs.com comble toutes vos envies, même les plus intimes. Lingerie sexy, accessoires et jeux coquins, sextoys tendance, huile et bougies de massage.
Rudesplaisirs.com, plus de 9500 références, les plus grandes marques érotiques au meilleur prix.
Rudesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et plaisirs coquins.
Découvrez notre nouveau showroom à Septem-les-Vallons ou passez commande sur rudesplaisirs.com. Livraison en toute discrétion.
Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire. Bétonne, ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne me fâche, je sais. J'arrêterai, je vais quitter Paris. C'est après, je vais payer pour ça. Ouais, je vais payer pour ça. J'ai dépassé les limites aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème d'éthique. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais. Je sais, après je vais payer pour ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bac. Je vais casser des cailloux en Guyane. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer. J'ai dépassé les limites aisément, largement. Quand je commence, je finis le travail proprement. Je consomme évidemment le plus possible de liquide et parfois même du solide, bien en chair, bien en roman. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer. Je vais.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Et c'est avec Fabrice Bach que nous allons vous écouter nous raconter vos histoires de couple quand la jalousie s'en mêle. N'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour Charlotte.
Oui, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Charlotte. Donc vous avez eu une relation qui a duré longtemps, hein, donc oui. Courage, bravo, félicitations, avec un compagnon qui était assez jaloux, hein, je crois, c'est ça?
Oui.
Racontez-nous. Ah oui.
Donc au début, ça, parce qu'on était toujours ensemble, donc ça allait très bien, on travaillait ensemble, tout allait très bien, et puis après, avec le temps passant, on a chacun eu du travail, chacun de l'autre côté, et puis et c'est là que ça s'est gâté, quoi.
Ah oui, donc quand il vous avait sous contrôle, si je puis dire, vous n'avez pas remarqué qu'il était jaloux?
Bah non.
Bah, peut-être qu'il ne l'était pas, vous ayant sous la main, sous les yeux. Et...
Ah, je sais que quand il me disait que des fois, quand on est dans des magasins, il remarquait toujours des hommes qui se retournaient sur moi ou sur...
Ah oui, oui. Alors que vous ne remarquez rien, c'est ça qui est toujours drôle, oui. Comme quoi, il projetait son...
Ses failles, ses angoisses.
Ses fantasmes, oui.
Tout à fait.
Et donc, à un moment donné, au bout de combien de temps de relation, vous ne travaillez plus ensemble?
Bon, on a travaillé ensemble à peu près 25 ans, donc tout allait bien.
D'accord, oui. Bon, donc quand même, oui.
Bien, même sexuellement, ça allait très bien. Puis après...
Cela dit, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Fabrice Bach, mais j'ai remarqué que les gens jaloux sont souvent dans une sexualité assez libre, assez forte.
Ah oui, complètement. Complètement.
C'est une manière finalement de garder l'autre.
Hein. De le capter. Ils savent que la sexualité est un élément important de la relation, donc ils vont beaucoup investir cette dimension. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque la jalousie commence à devenir maladie, ou prendre le pas d'une façon trop importante, la sexualité est touchée de la même façon. Je te retire ça. Je décide de te donner ou de te retirer cet élément-là.
Alors, allez-y, racontez-nous comment ça a commencé à être difficile à vivre.
Parce que je ne pouvais pas m'absenter. J'étais toujours partie trop longtemps. Ou il se demandait toujours où j'étais passée. Moi, je suis quelqu'un de très nature, donc je pouvais facilement aller passer du temps à cheval dans les bois. Je ne voyais pas le temps passer. Et puis, j'étais toujours partie trop longtemps, quoi. Et alors, il me trouvait des amants. Il me trouvait toujours des amants, toujours quelqu'un qu'on avait rencontré précédemment. Il était persuadé que j'avais fait l'amour avec. À chaque fois. Et puis à chaque fois, c'était indifférent. À chaque fois, c'en était un autre, et toujours un autre. Et puis, il disait toujours qu'il recommencerait pas, qu'il avait confiance en moi et qu'il était con de.
C'est-à-dire qu'il vous faisait une scène, vous arriviez à le rassurer, donc là il s'excusait, donc vous vous disiez c'est bon, on continue.
Il faisait pas de scène justement, c'est ça qui est dingue, parce que il me faisait juste la tête, il me faisait la gueule quoi, la gueule. Je rentrais, il me faisait la gueule. Alors moi je comprenais pas pourquoi au début, puis après une journée passait, deux journées passaient, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu fais la gueule? Puis il me disait je suis persuadée que. C'est terrible.
Oui, il boudait. En fait, les jaloux sont souvent agressifs et la bouderie, c'est une agressivité passive.
Hein. Oui, surtout quand on vous dit, quand vous aimez quelqu'un, que vous aimez que lui, que vous êtes fidèle, et puis qu'on vous dit que vous le trompez, c'est terrible. C'est terrible pour quelqu'un qui aime vraiment profondément l'autre.
Oui, parce que c'est extrêmement...
Il est capable de penser que vous êtes comme ça, c'est la trahison.
Oui, parce que ce qu'il projette sur vous, c'est que potentiellement, lui pourrait le faire. Donc vous pourriez le faire. Et c'est extrêmement blessant parce que vous l'aimez réellement. Et c'est intéressant ce que vous évoquez parce qu'on retrouve les comportements types. Mais vraiment, c'est fascinant à voir, du jaloux. Premier comportement, c'est la suspicion. Exactement ce que vous évoquez. On commence à interpréter les gestes, les attitudes. Pourquoi? Parce qu'il commence à s'inquiéter que quelqu'un vienne et prenne sa place. Deuxième élément, ce que vous avez été confronté, c'est les ruminations. Donc dans sa tête, il repasse en boucle. Et quand il ne parle pas, il tourne dans sa tête ce qu'il a hypothétisé qui s'était passé.
Voilà.
Après, vous avez droit aux interrogatoires. Donc 50 questions sur vos faits et gestes. Où est-ce que vous avez fait pour chercher une erreur dans ce que vous auriez dit? On se retrouve avec l'inspecteur Gadget qui se met à enquêter. Et puis après, ouais. C'est la comparaison avec les autres. Il ne cesse de se comparer aux autres, bien sûr en se dénigrant. Ce qui veut dire que vous le rehaussez. Mais non, tu es quelqu'un de tellement bien, je t'aime, etc.
Bah, oui.
Recherche d'exclusivité et de possession. Et alors là, il est prêt à tout pour vous garder, jusqu'à la prochaine crise qu'il aura.
Oui.
Et donc, voilà. Si je comprends bien, c'est ce qui a fini par mettre un terme à votre histoire ?
Oui. Parce que moi, je voulais vraiment vieillir avec lui, quoi. Je l'aimais que lui. Et un an, deux ans, trois ans, quatre ans, au bout de 10 ans, voilà.
Et ça s'aggravait, bon, il était de plus en plus jaloux, généralement.
Ça n'allait pas mieux, il disait toujours qu'il allait changer. Et finalement, quand j'écoute vos émissions, maintenant, depuis, j'écoute vos émissions et m'aperçois que les gens ne peuvent pas changer.
Bah, il aurait fallu faire un vrai travail qu'il n'avait pas de raison de faire, parce qu'en fait, il souffrait sans souffrir, en fait, puisqu'il projetait
il
sur vous.
Oui, il souffrait, il me faisait souffrir et lui souffrait aussi. Et on souffrait tous les deux.
Tout à fait.
C'est terrible. Le pire, c'est qu'il a quand même vu trois psychologues et je crois que quand la psychologue commençait à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, il décrochait. Je pense qu'il avait peur de souffrir, je sais pas. Enfin voilà, il décrochait.
C'est pas facile, hein, cela dit Fabrice Bach, d'aider un jaloux un peu maladif à ne plus l'être. Hein. C'est très compliqué.
Ouais, c'est très complexe parce qu'en fait, il faut pouvoir agir à deux niveaux en simultané. Agir, bien entendu, à titre individuel, c'est-à-dire le conjoint ou la conjointe ne peut pas l'aider dans sa jalousie lorsque ça devient véritablement maladif ou pathologique, parce qu'il fait partie du système. Donc la seule façon que vous avez de l'aider, pour lui, c'est de répondre à sa demande émotionnelle affective de valorisation, donc de combler ses failles narcissiques. Donc, il faut pouvoir agir, un, au niveau du couple, et deux, au niveau individuel, et les deux en parallèle. Si on fait l'un sans l'autre, fréquemment, c'est très compliqué, parce que, comme vous l'avez très bien évoqué, votre conjoint a été voir trois psys, à chaque fois qu'il commençait à s'approcher de la réelle problématique, qui pouvait être liée à des problématiques dans l'enfance, aux liens parentaux, immédiatement, il fuyait. Ça ne peut pas être touché, ça va faire trop mal. Mais finalement, la souffrance qu'il vivait avec vous au quotidien, ça, c'était acceptable.
Voilà.
Et d'où il faut pouvoir agir sur les deux. Parce que si au même moment, et ça c'est important que les auditeurs l'aient en tête, c'est-à-dire que dire voilà, tu es jaloux, il faut que tu ailles te faire soigner, et la personne y va, ce n'est pas suffisant, il faut qu'il y ait un travail aussi qui se fasse au niveau du couple, pour que à un moment donné, celui qui est jaloux, et qui fait porter à l'autre sa jalousie, il y a une nécessité vitale d'un rééquilibrage entre les deux partenaires. Sans quoi, celui qui subit, à un moment donné, n'en peut plus. Parce que ça va mettre beaucoup de temps à avancer individuellement.
Oui, tout à fait. Puis quand on vous promet qu'on ne recommence pas, puis que...
Oui, mais ça, oui. Mais c'est plus fort que lui, hein. De toute façon, c'est...
En plus, ce qui est dur, c'est qu'ils sont sincères quand ils disent ça.
On ne peut pas s'en empêcher. Oui.
Ben merci en tout cas de ce témoignage, Charlotte, qui illustre bien la jalousie maladive que j'ai presque l'impression qu'il y a plus d'hommes qui en sont dans cette jalousie-là que de femmes.
Alors effectivement, c'est très intéressant comme remarque. On retrouve globalement 2/3 d'hommes et 1/3 de femmes.
Oui, oui. Et vous l'expliquez comment ?
Alors, après les avis sont partagés sur cette explication. On retrouve donc des failles, des blessures narcissiques liées à la construction de l'estime de soi et au lien à la mère. Mmh. Et les garçons sont beaucoup plus touchés. Parce qu'ensuite, lorsqu'on peut dire, oui, mais il peut se construire aussi par rapport à son père, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que les filles, c'est beaucoup plus simple dans la construction. En fait, si elles ne trouvent pas ce regard lié à la mère, elles vont chercher autre chose au niveau du père, entrer dans les concepts psy, au niveau l'Oedipe, etc. Elles vont pouvoir se construire.
De toute façon, oui, elles vont à un moment donné déplacer leur amour pour le père, tandis que le garçon reste dans l'amour de
sa mère.
Et... Je comprends bien. Merci Charlotte, en tout cas, de ce témoignage. On va continuer dans un instant avec notre sexy news Fleur Chérie qui nous emmène dans un salon de littérature érotique pour dimanche prochain.
Sud Radio Bordeaux
106
Sud Radio.
Je suis le soleil et tu es l'ombre. C'est vrai qu'on ne se ressemble pas. Mes magies blanches, j'aime magie sombre. Sinon, les romans n'existent pas. Ton sort sur cicatrice à moi. Le jour.
qui touche au lieu de rouler des mécaniques. C'est la formule magique de l'amour électrique. Je veux de ta bouche une symphonie érotique. C'est la formule magique de l'amour magnétique. T'es les mots qui touchent au lieu.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant sexy news.
Eh bien Fabrice Bach, nous retrouvons Flore Chéri. Alors Flore Chéri, vous organisez pour la combienième année déjà?
Septième édition.
Ouais. Ce salon de littérature érotique qui a lieu dimanche à la Bellevilloise dans le 20e. Et donc c'est vraiment intéressant, Fabrice Bach, parce qu'il y a toujours énormément de monde, et je pense que ce sera le même cas dimanche, énormément de participants et une ambiance vraiment très chaleureuse de gens qui sont ouverts justement à l'érotisme. Et non pas forcément tout de suite à la pornographie. Donc bravo, en tout cas c'est une belle réussite, Flore.
Merci, merci beaucoup. Oui.
Et vous avez envie évidemment de nous en parler.
Oui, je vais vous en parler, mais peut-être après ma chronique qui est sur les jeunes qui veulent voir moins de sexe dans leurs séries télévisées. Alors, c'est une jeunesse qui est de plus en plus critique sur ce qu'on leur propose comme contenu via les écrans, les films, les séries, notamment en matière de sexualité. C'est une étude américaine qui suggère que la génération Z, celle des moins de 24 ans, souhaite voir moins de scènes de sexe dans leurs séries préférées. La moitié d'entre eux considèrent que la plupart des scènes de sexe proposées ne sont pas utiles à l'intrigue et apprécieraient suivre des histoires où les relations ne sont pas seulement basé sur des romances, plus d'amitié, de relations platoniques ou familiales. Généralement, il y a même une forme d'agacement de l'amourette entre deux ennemis qui se rendent compte finalement qu'ils s'aiment et qui finissent par coucher ensemble, ou de scènes de sexe qui fondent le décor du film. On pense bien sûr à Euphoria, Elite ou encore The Idol, les séries phares de Netflix et HBO pour les ados. Alors, on rappelle que ce sondage, il arrive dans un contexte où les jeunes connaissent déjà des périodes de récession sexuelle, que ce soit en France ou aux États-Unis. Le mouvement des asexuels connaissait déjà de l'ampleur avant 2020, mais c'est surtout depuis l'épidémie du Covid-19 que la vie sexuelle des jeunes s'est considérablement amenuisée. On se rappelle de ce chiffre choc français, près d'un jeune sur deux entre 18 et 25 ans n'a pas eu de rapport sexuel en 2022 et en 2021, alors qu'il n'était qu'un quart il y a 10 ans. Résultat d'une jeunesse qui se virtualise de plus en plus, qui souffre d'un avenir plus anxiogène, mais aussi de relations amoureuse ou sexuelle, de plus en plus compliquée, où les codes ne sont pas toujours très clairs. Et c'est pourquoi cette jeunesse laisse aux adultes le soin de leur proposer des séries en accord avec leurs réels problèmes, qui est moins de savoir si Jennifer va bien être invitée par Brandon au bal de fin d'année, que de savoir comment créer des amitiés solides, durables et honnêtes dans le temps. Souchon écrivait « On nous inflige des désirs qui nous affligent dans Full Sentimental », et c'est peut-être le cas avec cette nouvelle série Frenchy Shore de Paramount Plus, qui vient de sortir tout récemment en France et qui offre une surenchère dans la télé-réalité ultra trash, avec des participants sursiliconés, de la violence verbale, des disputes toutes les 5 minutes et une sexualité particulièrement volage et assumée. La série fait déjà un carton sur le réseau social préféré des jeunes, TikTok, où le hashtag Frenchy Shore cumule près de 35 millions de vues. Si une partie des jeunes s'en amuse, attention à ne pas creuser un peu plus le sillon d'une jeunesse lassée de l'imaginaire creux et déconnectée de leur réalité, quand celle-ci aspire profondément à une forme d'apaisement et de sérénité.
C'est curieux parce qu'en même temps, j'ai lu cet été un bouquin d'une sociologue qui était assez chiant à lire, faut bien le dire, mais intéressant. Et finalement, on voit que les jeunes ont un peu les mêmes aspirations de toute façon, quel que soit le milieu social, puisqu'elle a fait son enquête. dans la Sarthe, je crois, dans le 93, et à Neuilly-sur-Seine. Hein, donc on voit bien les trois catégories sociales les plus stéréotypées. Et elle disait que finalement, les jeunes filles cherchent quand même à rencontrer un homme qui les aime, on va pas dire un prince charmant, mais presque, et les jeunes garçons cherchent à rencontrer assez vite une fille avec qui ils peuvent avoir une relation pour pas passer pour un mec qui n'assure pas, etc. Donc c'est curieux parce qu'à la fois on a un peu tout et son contraire, et moi j'avoue que je sais plus très bien qu'est-ce qui existe aujourd'hui, parce que ce que vous dites, je veux bien l'entendre aussi, et c'est certainement vrai aussi.
En fait, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a des fondamentaux qui sont là.
Et qui ne bougent pas.
Et qui ne bougent pas,
ouais, c'est ça.
Depuis l'aube des temps. Sauf que notre société aujourd'hui les a bousculés, ces fondamentaux. Effectivement, ces jeunes qui très tôt dans les séries sont confrontés, parce qu'il faut faire du sulfureux, donc à quelques éléments pseudo-pornographiques, mais pas trop, mais un peu quand même. C'est rare parce qu'on veut attirer, pas tant attirer les jeunes, qu'un plus large, en fait. Et du coup, ça agresse ces jeunes, parce qu'ils ne sont pas prêts à ça. Au-delà, encore une fois, la pornographie a toujours participé de l'éducation de la sexualité à Rome, on trouvait déjà des graffitis pornographiques.
Mais même dans les cavernes.
Voilà, c'est normal. Mais c'est comment, à un moment donné, on a donné accès à tout et n'importe quoi, sans limite, en fait, et surtout sans compréhension.
Mais je crois que le problème actuel de la jeunesse, et puis même, je dirais, des humains, c'est que finalement, on a un petit peu cassé les anciens repères, et c'est très bien, parce qu'il y avait sûrement trop de conservatisme.
Certainement.
Et on met en avant, notamment par le wokisme, des choses très, quand même, plutôt marginales. Du coup, les gens ne savent plus très bien, et je crois qu'on a vraiment, toute une société qui est en perte de repères et qui va pas bien, quoi.
Oui, c'est surtout ça. Je pense que c'est le manque de code là où il y a une aspiration qui est claire, stable,
on
qui
peut
est de
comprendre,
l'amour,
et
puis l'envie de rencontrer l'autre, et puis il y a de l'insincérité. Peut-être que c'est ça, c'est cette génération qui est soumise à l'insincérité des réseaux sociaux qui montrent une vie qui n'est pas réelle, des téléréalités qui montrent une vie qui n'est pas réelle, et ils disent finalement à quoi on peut s'accrocher, qu'est-ce qui est vrai. Et là aujourd'hui, la proposition Netflix, TikTok et de la téléréalité ne répond pas à leurs questions.
Bah parce que c'est pas des jeunes qui le font.
Mais c'est peut-être pour ça. Mais oui, c'est ça. On voit que la génération d'au-dessus n'a peut-être pas encore les codes et les enjeux de celle qui a été un peu traumatisée par le Covid et qui est en recherche de socles et de relations solide.
Il y a des fondamentaux qui existent dans la société. Sur un parallèle un peu particulier, si on prend Star Wars, le tout premier, une telle extension mondiale, mais qu'est-ce qu'il a fait, George Lucas? Comment il a réussi à faire ça? Il a touché des fondamentaux dans l'imaginaire. Et ça a fonctionné. Bon, après, ce que c'est devenu, c'est autre chose. Mais la première trilogie est extraordinaire dans ce qu'il a réussi à toucher. Et ces fondamentaux existent. Et aujourd'hui, on les a brouillés. Et les jeunes ne savent plus. Effectivement, je rejoins tout à fait tous ces réseaux sociaux, tout ce qui est montré, tout cet étalage qui est là. À un moment donné, tout le monde veut vivre une vie extraordinaire, magnifique, merveilleuse. Mais finalement, moi, fondamentalement, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Je ne sais plus. Et du coup, je me replie. Et on se replie de plus en plus. Donc effectivement, la sexualité, on ne sait plus ce qu'on peut y trouver, ce qu'on peut
y vivre. Il y a eu aussi beaucoup de peurs qui se sont un petit peu exacerbées, beaucoup d'anxiété. Enfin. Et c'est vrai qu'en même temps, moi, je trouve formidable, quand on est jeune, d'avoir envie de changer le monde, de le refaire. Enfin, je veux dire, il faut aussi, les encourager à ça. Hein. Mais malgré tout, l'être humain reste l'être humain. Et on n'a pas tellement évolué.
Il y a des choses qui se doivent d'évoluer et des choses qui se doivent de rester, et on ne fait plus la dissociation entre les deux. Tout doit évoluer dans tous les sens.
Et même quand on sait ce qu'on veut, je trouve ça plus difficile aussi, parce que les codes ne sont plus du tout les mêmes. On ne partage pas forcément les mêmes codes, peut-être quand on vient de Neuilly ou de la Sarthe. Et on se retrouve peut-être avec une société qui est moins homogène en termes de codes. Donc quand on va par exemple à un date ou quand on rencontre une personne, on ne sait plus trop sur quel pied danser, même si on est sûr de ce qu'on
déjà,
veut.
Déjà, on ne sait plus trop comment s'habiller.
Déjà. Ce que ça veut dire, les mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce que quand on parle d'amour, la personne a la même chose en tête? Enfin, c'est bien plus compliqué qu'à une époque.
Quand on voit des jeunes qui se posent la question, au bout de combien de temps je leur répondrai un message pour ne pas qu'ils pensent que je suis trop accroché ou pas, On répond comme ça, c'est tout. Non, on commence à élaborer des stratégies, etc. Qu'est-ce que ça se complexifie? Et trop de complexité, à un moment donné, ça freine. Ça
comme trop de liberté tue la liberté.
Exactement.
C'est toujours le problème des extrêmes. Alors justement, Flore chérie, vous continuez à penser que l'érotisme est nécessaire, est utile.
Oui.
Et je suis assez d'accord avec vous. et je serai d'ailleurs à ce salon de littérature érotique dimanche. Alors, racontez-nous un petit peu, tiens, prenons un petit peu de temps. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce salon-là tout au début, il y a 7 ans?
En fait, j'organise maintenant, ça va faire depuis 11 ans, des ateliers d'écriture érotique. Et c'est ça qui m'a permis de me lancer dans la sexualité, que ce soit en tant que journaliste ou...
Parce que vous travaillez aussi à Union.fr.
Voilà, hein. Je travaille aussi à Union.fr. Et puis j'ai travaillé pour beaucoup de médias différents. Et puis ça m'a aussi permis de fédérer des différentes communautés dans le milieu de la sexualité. Et ça a été ma porte d'entrée. Donc une fois qu'on connaît beaucoup d'auteurs, d'autrices et qu'on connaît aussi toutes les maisons d'édition du secteur, on se dit c'est assez facile finalement de proposer ces discours. Et comme j'ai quand même très à cœur d'être plus que d'avoir des idées, d'être une passeuse d'idées, de gérer des endroits où les gens se sentent libres de pouvoir donner leurs discours, donner leurs opinions, dire sincèrement ce qu'ils ont dans leur tête, finalement organiser un salon avec des maisons d'édition dans la littérature érotique qui souffrent d'un manque de visibilité, parce que c'est pas si facile de sortir un livre pour des raisons de censure, de protection des mineurs, pas de censure, mais de protection des mineurs principalement. On est toujours obligé de passer par des réseaux alternatifs, ce que je comprends parfaitement, mais ça empêche ce type et ce genre littéraire d'avoir pignon sur rue, d'avoir de l'argent et potentiellement parfois des écrits de qualité. Là, le salon de la littérature érotique, c'est aussi un moyen de redonner une visibilité à ce genre littéraire qui peut souffrir parfois d'un manque d'espace à lui.
Ce qui est dommage d'ailleurs, c'est que c'est toujours très difficile de connaître quel est le bon livre qui va nous plaire érotique, si je puis dire, parce que justement il y a peu de presse, donc on les trouve relativement facilement maintenant, d'autant plus qu'on peut sur internet en acheter, mais c'est vrai que devant un titre et un auteur, on ne sait pas très bien.
Et c'est vrai que
c'est ça aussi qui est difficile et c'est un peu dommage.
Et surtout que c'est une littérature, si là on parle d'un point de vue de ce qui sort d'année en année, qui change énormément. Elle était très masculine sur tout le XXe siècle et là depuis... Je dirais vraiment depuis 2010, toutes les maisons d'édition ne sortent presque que des romans érotiques écrits par des femmes.
Ouais,
c'est vraiment un tournant majeur dans cette littérature qui passe un petit peu inaperçu, mais qui change beaucoup de choses sur ce qu'on peut lire. La romance érotique aussi, qui fait un carton depuis 50 nuances degrés. Déjà, on avait les prémices avec Histoire d'eau qui cartonnait, on se disait qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Et là, on voit que la romance érotique se développe à vitesse grand V dans toutes les bibliothèques des femmes.
Oui. Alors voilà, c'est dimanche, si vous avez envie. Ça commence dimanche après-midi, je crois. Hein.
Oui, c'est de 15h à 21h, tout
à fait. De 15h à 21h, si vous avez envie, c'est dans le 20e. Bon, vous allez trouver, hein, de toute façon, sur Internet, si vous avez envie d'en savoir plus, évidemment. Merci, Flore.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et à dimanche. René est avec nous pour 3 questions intimes. Bonjour René.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Fabrice.
Bonjour.
Et je tenais à remercier vos collaborateurs et collaboratrices.
Nous formons une très très bonne équipe sur Sud Radio et c'est pour ça que nous grimpons, nous augmentons notre audience et notamment sur YouTube. On est très très nombreux et je vous en remercie de votre fidélité. Alors René, première question évidemment, est-ce que vous lisez des livres érotiques ?
Ça m'est arrivé de temps en temps, mais beaucoup moins maintenant.
D'accord. Quand vous étiez plus jeune, c'est ça ?
Oui.
Quand vous aviez la main baladeuse ?
Entre autres, et notamment Union, ou voilà.
Ah bah oui, Union.
Et je peux, par rapport à ça, il est vrai que je pense que la femme est beaucoup plus prolifique que l'homme à ce niveau-là.
C'est pas les mêmes écritures, je trouve. Mais
justement, elle est plus prolifique.
Elle a plus d'imaginaire peut-être, oui, c'est moins,
c'est ça.
Moins direct.
C'est ça. Aussi.
Oui, oui. Bon, très bien. Deuxième question, est-ce que vous êtes adepte de la sodomie ? Je ne sais pas pourquoi je pose cette question, mais pourquoi pas ?
Si ma partenaire le demande, oui, mais sinon, pas spécialement.
D'accord, donc c'est plutôt pour rester aimable que par désir personnel.
Non, j'apprécie aussi.
Oui, bah, je me doute bien, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui vous attire particulièrement. Et, voilà. Et dernière question, à part dans un lit, où est-ce que vous aimez faire l'amour?
Un peu partout.
Oh, carrément. Mais quelle serait la préférence si vous fallait choisir un lieu particulier?
Bah, j'en ai essayé beaucoup, j'ai une cinquantaine d'années, donc un début de 50 ans, pardon. Donc, j'ai fait plusieurs choses, les voitures, la plage, j'ai essayé aussi l'ascenseur et autres, tous les principes de base.
Grands classiques, oui. Et alors voilà, finalement, qu'est-ce qui vous attire le plus?
Bah, j'ai pas de préférence, j'aime bien faire l'amour.
D'accord. Eh ben, vous pouvez poser une question à Fabrice Bach qui vous écoute, allez-y.
Alors oui, actuellement, je suis avec une nouvelle partenaire qui en fait s'est retrouvée, qui a vécu sa vie, elle a connu les milieux libertins et autres, mais par contre m'a avoué qu'elle était très jalouse et qu'elle ne supporterait pas que je puisse avoir d'autres partenaires.
Mmh. Et alors, c'est quoi votre question ?
Bah, savoir si je dois lui dire ou pas, si ça doit arriver.
Si vous alliez en club libertin, c'est ça?
Non, elle, c'est ma partenaire. Moi, j'ai jamais testé.
Alors, je crois qu'il y a deux niveaux dans ce que vous évoquez. Le fait qu'elle ait été en club libertin, s'il y était seul, c'était pour sa construction à elle. S'il était avec quelqu'un, c'est encore une autre situation. Maintenant, le fait qu'il y a cette notion de voir jusqu'où d'appropriation de votre personne sur le plan sentimental, peut-être aussi sur le plan physique. Vous pourrez imaginer que si elle vous considère comme étant un très bon amant, elle puisse être jalouse du fait que vous puissiez faire quoi que ce soit à quelqu'un d'autre, ce qui pourrait se comprendre en soi. Donc, comme je disais à l'instant, est-ce que du coup, vous, est-ce que vous devriez le vivre de votre côté? Là, je peux me positionner. Non, parce qu'elle vous l'a posé, qu'elle ne le supporterait pas. Concrètement. Maintenant, comme je le disais au début de mon intervention, c'est important de savoir au départ, est-ce qu'elle a été dans ces milieux seule ou accompagnée?
Seule.
D'accord, donc c'était bien pour elle qu'elle faisait cela. Donc elle n'envisage absolument pas que ça puisse être vécu en couple.
Elle m'a carrément dit, parce que je lui ai dit que je voudrais bien essayer, mais elle m'a carrément dit non. Mmh. Je ne le supporterai pas.
Mmh. Et vous, ça vous a excité quand elle vous en a parlé?
Oui, ça m'a intéressé.
On va dire
oui,
ça.
Oui, ça interpelle, bien entendu. Maintenant, je crois que soyez vigilants, elle vous a posé quelque chose d'important. Elle a vécu dans son expérience de vie personnelle à elle, voilà, dans son chemin de vie sexuelle, cette expérience-là. Elle en a tiré quelque chose pour elle. Visiblement, elle ne souhaite pas forcément le transposer au niveau d'une relation dans un couple.
Elle en a fait le tour et maintenant, elle a envie de vivre une histoire avec vous.
À deux. Voilà. Et ça lui suffit largement.
Voilà. Merci René, merci beaucoup.
Merci beaucoup, au revoir.
On va faire une petite pause et on retrouve Karine dans un instant.
Sud Radio Cagnes-sur-Mer.
97.9.
Sud Radio.
J'aime tes vins de Bourgogne qui me racontent des histoires. Tes petites piquettes qui collent et sentent bon le terroir. Je m'enroule dans ta manche, je rêve de tes tropiques. J'aime tellement tes dimanches, ta campagne et tes criques. Chez toi on se sent libre, égal et fraternel. Et même quand tu m'enivres, je m'accroche à tes prunelles. Tout le 14 juillet, tu brilles de mille feux. On est tous aux aguets, les petits, les grands, les vieux. Chaque fois je veux partir, voyager hors du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence, aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais le tour de France. On ne fait jamais le tour de France. J'aime tes petites places, ricard et puis pétanque. M'asseoir à tes terrasses ou sirop à la menthe. T'as le goût de la fête, tes rêves parlent fort.
tellement de facettes et tellement de décors. Chez toi on ne s'ennuie jamais, à ton petit caractère. Quand on te marche sur les pieds, tu lèves le poing en l'air. Unis on est plus fort, même quand on se fait la guerre. On s'engage et alors on reste solidaire. Chaque fois que je veux partir, voyager fort du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence, aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais. Sans chez soi, un petit bout de terre. C'est bien joli la Bretagne, et c'est bien bon le Finistère. Et quand l'Alsace te gagne, tu reviens pas en arrière. Chaque fois que je veux partir, voyager fort du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. Jamais le tour de France, la pa la pa, la pa la pa. On ne fait jamais le tour de France, la pa la pa, la pa la pa.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Eh bien Fabrice Bach, on continue sur la jalousie avec vous aujourd'hui. Et c'est bien parce que nous avons une femme qui était jalouse, n'est-ce pas Karine? Bonjour.
Oui, bonjour Brigitte et bonjour Fabrice.
Bonjour.
Oui, oui, je voulais témoigner.
Mais merci, c'est important parce que si vous témoignez, c'est que vous l'êtes peut-être un peu moins.
Je voulais témoigner sur le sujet par rapport à des expériences du passé, parce que je suis pas du tout à proprement parler du tout jalouse ni envieuse de quoi que ce soit. C'est pas ma nature profonde ni fondamentale, mais dans ma vie de couple plus jeune, j'ai eu un accès de jalousie avec un partenaire, et puis je me suis souvenue après en avoir parlé un petit peu tout à l'heure avec Jordan, je crois, qu'il y avait eu un autre un peu plus tard avec du recul, je pense que cela activait en fait des traumatismes de l'enfance d'insécurité, parce que j'ai grandi vraiment dans un climat d'insécurité affective. Et du coup, je pense que comme j'étais pas suffisamment construite à cette période de ma vie, ça m'a mis en...
Votre partenaire a appuyé sur ces zones un peu fragiles.
Oui, et puis surtout, j'avais pas fait de bons choix dans ce partenaire, parce que ce serait aujourd'hui, ce serait pas du tout comme ça.
Oui, mais c'est pas par hasard, hein. Vous avez peut-être choisi ce partenaire pour qu'il vous aide à appuyer là où il fallait un peu travailler, hein.
Surtout, je me dirigeais comme un robot formaté que j'étais vers l'insécurité, l'irrespect, voilà tout ce que je connaissais en somme. Ça a été très très douloureux. Donc j'ai tenté de me remettre en question, de comprendre pourquoi j'avais de tels agissements ou de telles pensées. Parce que je projetais sur lui des choses qui, si ça se trouve, n'avaient pas lieu. Hein, et puis donc je me suis analysée, j'ai vu des thérapeutes, et puis au gré de ma vie, j'ai compris où ça pouvait remonter, et ça ne s'est jamais reproduit en fait, parce que je vous disais,
peut-être parce que vous l'avez travaillé, hein, bravo.
Je l'ai travaillé, ce point-là, parce qu'autrement, c'est vrai que je ne suis pas jalouse. Vous voyez, avec ce partenaire, je l'avais même emmené en club échangiste avec moi. Donc, j'ouvrais un champ des possibles dans le domaine du... Pardon pour ma voix enrhumée. J'aimais explorer plein de choses qui, bon, je pense, auraient pu me mettre en danger et pour autant non.
Cela étant dit, moi qui connais bien le libertinage, d'abord pour l'avoir fréquenté moi-même quand j'étais beaucoup plus jeune et puis maintenant pour continuer à explorer et écouter des libertins, il y a quand même une notion de contrôle lorsqu'on va ensemble libertiner, comme ils disent. Parce qu'au fond, on est là. Et l'autre peut-être a une relation avec quelqu'un d'autre, mais on est là, on contrôle. Et c'est devant nous ou avec nous, c'est pas... vous voyez ?
Oui, alors moi, c'était pas du tout comme ça que ça se passait, parce qu'en fait, moi, je voulais y aller coûte que coûte. Et d'ailleurs, quand il en avait pas l'envie ou j'en parlais pas systématiquement, j'y allais seule. J'étais un petit peu...
Mais c'était donc un désir d'expérimenter comme la copine de René qui tout à l'heure. Pour vous construire, vous, pour découvrir, pour...
Oui. Et puis, pour explorer des choses. Alors, du coup, lui en faire profiter parce qu'il était peut-être pas, enfin, il connaissait pas. Donc voilà. Mais autrement, comme il était, il avait des attitudes qui me mettaient face à des, enfin, j'en avais pas conscience, mais face à des choses qui me choquaient quand j'étais petite ou avec mon environnement familial. Ces attitudes-là me glaçaient, me peinaient beaucoup et je devenais
jalouse.
Ouais. Ben oui. Il y avait pas de téléphone portable à l'époque, mais je crois que ce serait devenu folle.
Mais c'est intéressant ce que vous évoquez parce qu'effectivement, faut parfois être vigilant à un conjoint qu'on peut avoir qui peut se représenter la jalousie comme faisant partie quelque chose de normal dans la relation, il va commencer à chercher à l'activer chez l'autre. Et sans s'en rendre compte, il commence à appuyer sur des points extrêmement sensibles. À ce moment-là, ça explose. Sauf que lui, ce qu'il voit juste à ce moment-là, c'est « Tiens, il y a une réaction émotionnelle très forte. Donc, je recommence. »
Eh ben, c'était ça.
Merci en tout cas de votre témoignage. Merci. Ça montre bien que la jalousie, parfois, elle est très ponctuelle parce qu'elle alimente quelque chose et ça peut aller mieux. On va continuer en parler tout de suite après les infos, bien sûr. Petite devinette, qu'est-ce qu'une femme prend quand son mari ne lui fait plus l'amour? Vous pourrez donner la réponse après les infos, Fabrice Bach.
Sud Radio Tarascon.
95.2.
Sud Radio.
On m'a demandé d'être fort, au point d'abattre ce mur, et puis d'en construire encore. On m'a dit faut des blessures, au moins des bleus sur le corps. C'est même à ça qu'on mesure, tous ceux qui font des efforts. Tous ceux qui font des efforts. Sois un homme, un homme qui ne soit pas qu'un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Sois un homme, un homme qui ne soit pas qu'un homme. Moi, j'ai rien demandé. Non, j'ai rien demandé à personne, à personne. Cette foutue ligne d'arrivée, on m'a dit il faut séduire, toucher les corps, les compter, que l'important c'est d'en jouir et de brandir le trophée.
Sois un homme, un homme qui ne soit pas qu'un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Sois un homme, un homme qui ne soit pas qu'un homme. Moi, j'ai rien. We'll be right back.
dedans. L'émotion, à quoi ça sert? T'as plus qu'à serrer les dents. On m'a dit tu sais quoi faire, et puis t'es plus un enfant. C'est pour les filles, les manières, les mecs ça prend pas de gants. Moi, j'ai rien demandé à personne.
Sud Radio.
Sud.
Radio.
Tant qu'on joue, peu importe de gagner la vie, c'est additionner les années. Et tant pis, y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs, il en faudra.
L'espace est la tempête, on est plus fort que ça. Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça. L'espace est la tempête, on est plus fort que ça. Plus fort, plus fort.
Jusqu'au bout, peu importe les avis, j'encaisse. J'ai additionné les échecs, et tant pis. Si je perds sur la route de mes rêves, des amis qui durent, et je croyais pour la vie. Si tu l'aimes, autant lui dire, et le reste attendra. Je croyais que l'avenir ne se finissait pas. Je vais courir, et ça ira.
L'espace est là.
L'espace est la tempête.